plaisir, au danger, au travail, j'ai toujours la première place.
La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes par Laurent Delmas.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Perry.
J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur. Depuis cette manie des portes et robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours.
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Pourquoi vous avez fait tout ça?
Parce que j'avais envie de le faire.
France Inter.
RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Radio-Canada.
L'essentiel, c'est que la vertu triomphe.
La Bébelle Époque.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Jean-Paul Belmondo, D'à bout de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
Vous n'avez pas tout dit, Delmas.
Le séducteur, le cascadeur, le macho, le sympathique. Tenter de qualifier d'un mot Jean-Paul Belmondo, c'est faire une liste qui ressemble au titre de certains de ses films. Et l'un d'entre eux pourrait peut-être les résumer tous, Le Magnifique. À condition de se souvenir que dans ce réjouissant film de Philippe de Broca, Belmondo incarne deux personnages à l'opposé l'un de l'autre. De fait, il y a bien eu tour à tour et dans une même carrière, Belmondo et Bébel, le jeune homme de la nouvelle vague et le quinquagénaire bondissant, le flic et le voyou, un prêtre et un guignolo. Au final, une Bébelle Époque et un acteur devenu au fil du temps et des films un monument national qui a fait sourire, rire et vibrer des spectateurs francophones notamment et par millions. La tentation était grande de dresser son portrait en suivant la chronologie des tournages et des décennies. Mais on a finalement choisi une autre approche, bien plus en rapport avec un personnage aux multiples facettes. Et les thématiques se sont imposées d'elles-mêmes, depuis les films d'auteur jusqu'aux films d'action, en passant par les polars et les comédies virevoltantes, sans oublier d'aller faire un tour du côté des scénaristes et des musiciens qui ont contribué à créer l'univers et de Belmondo et de Bébel. Avec l'aide précieuse des archives, des extraits de ses films et les témoignages inédits de celles et ceux qui ont travaillé avec lui. Allez, c'est parti, ou plutôt, comme il aurait dit lui...
Allons-y, allons-y.
Et il faut bien remonter aux origines pour raconter ce que Quentin Tarantino a nommé le belmondisme. Même si tout a déjà été dit et écrit sur les débuts dans la vie du futur Bébel. Les amateurs de mélo devront juste passer leur chemin. Le fils du sculpteur Paul Belmondo est né dans un milieu privilégié. Personne ne lui a mis des bâtons dans les roues pour devenir comédien. Aucune vache enragée à son menu, aucun destin maudit à combattre. Aucun anathème familial non plus. Presque une voix royale, comme il le disait lui-même en 1998, face à Bernard Pivot.
Ma mère aimait beaucoup le cirque et elle nous emmenait avec mon frère beaucoup au cirque. Et j'étais fasciné par les clowns, les trapézistes. Et moi, je faisais, avec les copains, 12 ans, tout ça, je montais des petits numéros de clowns. Mon père, vous savez, quand je lui ai dit que je voulais être clown, à un moment donné, il était très content parce que il avait peur que je devienne boxeur ou footballeur, qu'il l'effrayait plus que ça. Mais vous savez, les clowns, à l'époque, il y avait Grog, il y avait Rome, c'était un statut énorme, c'était des très grands artistes.
Mais enfin, il est bien accommodant, hein, monsieur Paul Belmondo, votre père, parce que vous ramenez de l'école, du lycée, des notes absolument épouvantables, vous vous faites virer des boîtes à bachots, après vous allez vous faire virer d'une entreprise, vous faites virer des musicals, vider des théâtre. Mais c'est incroyable quand même, vous êtes impossible à vivre. Et lui, il accepte toujours.
Oui, mais j'ai eu la chance, vous savez, justement, d'avoir des parents très tolérants, parce que ma mère aussi, elle était formidable, parce que on me virait de partout, des écoles, par exemple, la dernière boîte que j'ai fait, c'était une boîte à bachot à l'école Pascal, et les types disaient à ma mère, ben on le garde parce que c'est un bon gardien de but. Mais enfin, maintenant, il arrivait à un certain âge, il faudrait quand même qu'il s'en aille. Ouais. Et c'est là où je suis parti. Mon père avait un ami qui avait une usine de joints découpés. Il a dit à mon père, on va le mettre au paquet. Après, il m'a dit ça, et il finira à faire les paquets.
À faire les paquets, oui.
Et après, il finira, au bout de 6 mois, je ne savais toujours pas faire un paquet. Alors le gars, il a appelé mon père, il a dit, on ne peut vraiment rien en faire. Et c'est là où mon père m'a dit un jour, mais enfin, mon petit, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, je voudrais être acteur.
Jusque-là, donc, tout va bien, serait-on tenté de dire, mais les membres du jury du conservatoire vont se charger, en juillet 1956, d'écrire la légende en ne décernant qu'un désolant premier accessite au jeune Jean-Paul Belmondo, lequel ne manque pas de leur faire un bras d'honneur alors que ses petits camarades, eux, le portent en triomphe. Voici d'ailleurs ce qu'écrivit l'un des membres du dit jury. Je le cite. « Accessite vraiment indulgent. Monsieur Belmondo, en scapin de la place Pigalle, accent traînant qui rappelle Prosper le roi du Macadam, était impossible. Molière se serait fâché. » Fin de citation. Ou comment un mini-scandale vous fait entrer dans la cour des rebelles ? 40 ans plus tard, le jeune insolent revient sur ses années de formation avec le détachement de celui qui a tout réussi.
Si vous voulez, et je ne renie pas le conservatoire, parce que ça m'a apporté beaucoup et j'ai eu la chance de connaître des gens formidables comme Georges Leroy, qui était un professeur extraordinaire, qui a si bien Marielle, Rochefort, Vernet, ça, tous nos amis, nous a amené des choses intérieures formidables. Il vous disait des choses très très justes. Puis il y avait Dux, qui était un grand acteur, mais qui ne nous comprenait pas bien, disons. Alors il avait cette espèce de rigueur, il voulait nous casser. Évidemment, il n'arrivait pas à nous casser, parce que plus il voulait nous casser, plus on se révoltait. Mais je crois qu'il faut pouvoir se révolter, justement. On rêvait de rentrer à la Comédie française, par exemple. Voilà, moi j'ai été stagiaire de la Comédie française, je me suis fait foutre à pied 6 mois aussi, parce que j'avais le diable au corps. Mais j'étais dans Fantasio et j'avais une réplique, de réplique à dire, je faisais un croque-mort. J'arrivais avec mon bidule, avec un autre devant, me disait, qui enterrez-vous? Et je devais répondre, nous enterrons Saint-Jean, sa place est vacante, vous pouvez la prendre si vous voulez. Et le metteur en scène me dit, monsieur, vous êtes acteur? Je dis, oui, je suis acteur. Alors, un temps, imbécile, un temps, et dites, si vous voulez. Et alors, la générale est arrivée, et le spectacle ne se passait pas très bien, malheureusement, pour ceux qui jouaient en vedette. Et moi, je suis arrivé avec mon truc, et qui enterrez-vous? J'ai dit, nous enterrons Saint-Jean, sa place est vacante, vous pouvez la prendre. Je suis sorti, et j'ai repassé juste la tête, et j'ai fait, si vous voulez. Alors, j'ai fait un tabac comique. Évidemment, j'ai été appelé par Pierre Descages, et je me suis retrouvé 6 mois à pied. Ma prestation s'est arrêtée là. Mais c'était en même temps une envie d'être là. J'admirais ces gens-là, que je pouvais chahuter, finalement. Mais je les admirais énormément.
Mais ce premier petit scandale n'est rien comparé à la déflagration artistique que va constituer en 1960 la sortie sur les écrans d'un film au synopsis écrit hâtivement par François Truffaut et magistralement agencé par Jean-Luc Godard, À bout de souffle. Belmondo, presque à son insu, devient le jeune premier idéal d'un courant cinématographique bien décidé à renverser la table tout en multipliant les références à un certain cinéma américain, avec par exemple la figure de Bogart. Il incarne alors un véritable objet de désir, une nouvelle modernité à la virilité décomplexée, mais capable de second degré. Le tout rehaussé d'une gouaille de titi parisien. De quoi frapper tous les esprits, a fortiori celui d'un confrère comédien nommé Jean Rochefort, qui des décennies plus tard s'en souvenait encore.
Il m'est arrivé, dans la même semaine, de voir À bout de souffle et Shadows de Cassavetes. Et pendant une semaine, j'ai marché 10 cm au-dessus du bitume, parce que je me suis dit, là est mon avenir. J'étais littéralement bouleversé, enthousiasmé, et j'ai eu très envie du cinéma. En ayant vu cela. Mais je suis resté au bord de la plage parce que je ne me suis pas intégré avec ce groupe qui commençait à créer, qui commençait à inventer un nouveau cinéma. Nous en étions à la pleine période où on n'allait plus voir de films français quand la nouvelle vague est arrivée. On le trouvait ennuyeux. On ne le trouvait pas concernant avec notre génération. Et À bout de souffle a été une véritable révolution. Et je me souviens avoir écrit une très longue lettre à mon ami Belmondo, il m'a fait l'honneur de la garder dans son portefeuille pendant une trentaine d'années, parce que ça m'avait réellement bouleversé.
Quant à l'intéressé lui-même, il n'a jamais, jamais caché que le tournage d'À bout de souffle lui avait à l'époque semblé surréaliste. Il ira même jusqu'à rassurer sa partenaire, Ginsberg, tout autant déstabilisée que lui, en lui assurant à la fin d'une journée de travail, ce film ne sortira sans doute jamais en salle. En 1996, au micro d'André Asseo, Belmondo s'en amuse, preuve si besoin était que l'on peut écrire l'histoire et ne pas vraiment s'en apercevoir sur le moment.
Moi, je pensais que le film ne sortirait pas. Je l'ai dit souvent, mais c'est vrai. Moi, j'avais eu quelques expériences de cinéma, dont une avec Carnet, où j'avais un second rôle, mais c'était un cinéma, disons, très classique. J'avais tourné avec Delbez, des gens comme ça, et je trouvais que le cinéma, c'était très emmerdant. À l'époque, on avait des plaques au pied, là, qu'on clouait. Il ne fallait pas dépasser ci, il ne fallait pas dépasser ça. Mais bon, et d'un coup, je me suis trouvé avec un type, j'avais l'impression qu'on tournait un film d'amateur, de copain. Parce que du moment où tu vas là-bas, puis tu lui diras ça, puis ben, on partait. Et moi, je rentrais le soir, je disais à ma femme, je m'amuse bien, mais ça sortira jamais. Parce que c'était totalement en liberté. Hein. Je veux dire, vraiment, il n'y avait pas de place précise, il n'y avait pas de... Il vous soufflait aussi le texte de temps en temps. De, ben, dis-lui ça pendant qu'on jouait. Bon, on disait, il n'y avait pas de son direct. Il n'y avait rien. Pour moi, c'était la liberté totale. Et puis bon, Jean, elle était une vedette en Amérique, mais en France...
Jean Siberg,
oui, qui était merveilleuse, mais que... Et elle était très surprise aussi, parce qu'elle, à l'arrivée d'Hollywood, c'était pire que moi. Et elle était une vedette d'Hollywood, elle avait joué Jeanne d'Arc avec Otto Preminger. Et elle me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est une sorcière. Mais je lui dis, t'en fais pas, on rigole bien. Puis ça va.
Et alors, cette surprise...
Oui, alors, dès le premier jour, aussi, il m'avait dit de rentrer dans une cabine téléphonique. Et puis je dis, qu'est-ce que je dis? Mais elle me dit, tu dis ce que tu veux. Alors, je suis rentré dans la cabine et je dis, c'est qu'un mec qui me dit n'importe quoi. Ouais. Puis il a dit, j'ai plus d'idée, il est parti. Comme ça, les 8 premiers jours, on tournait 2 plans, 3 plans. Puis d'un coup, il y a eu la fameuse scène à l'hôtel de Suède, là, où on attendait en bas, je me rappellerai toujours, avec Jean au café. On prenait nos croissants, on se marrait, on discutait. Puis tout d'un coup, il a dit, bah, montez, c'est prêt. Et puis on est monté, il avait écrit un texte formidable de cette chambre. Donc,
superbe.
Voilà, superbe.
Ah ouais, oui.
Mais si vous voulez, on se disait, bon, il a fait faire, je crois, Godard. Parce qu'on parle souvent de la Nouvelle Vague et tout. C'est vrai qu'elle a été importante, mais la Nouvelle Vague, vraiment, moi, je pense que c'est Godard. C'est pas parce que j'ai été... dans ses films, et lui, il a vraiment inventé une nouvelle manière de
enfin, filmer. Enfin, Chabrol aussi.
Oui, non, mais lui, je veux dire, il a vraiment marqué la manière de monter les films. Chabrol, j'adore Chabrol, hein, moi j'ai un souvenir formidable avec Claude. Et Truffaut ont été des grands aussi. Hein, qui sont, voilà. Mais lui, c'était vraiment à part quand même, hein, complètement à part.
C'est pourquoi tu reviens, Charlotte. Je vais te le dire, tu viens demander pardon. C'est trop tard, inutile de dire quoi que ce soit, ma petite fille, tu n'as qu'à te taire. Je trouve ça fantastique. Tu es la plus jolie fille de Paris, d'accord, mais ça ne fait rien. C'était couru d'avance avec ce type. Fallait le prévoir. Quelle idiote. Évidemment que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça ne pouvait pas marcher. Et ça ne pouvait pas marcher parce que ça ne devait pas marcher. Impossible. Possible. Tu devrais savoir qu'impossible est un mot français, que j'idiote. Moi aussi, je peux me jeter au cou de n'importe qui. Facile.
Oui, la voix que l'on vient d'entendre, c'est bien celle de Jean-Luc Godard. Alors même qu'il s'agit d'un extrait de son court-métrage « Charlotte et son Jules », tourné avant « À bout de souffle » et dans lequel Belmondo tient le rôle principal. Alors quoi ? La voix de Godard et le corps de Belmondo ? Départ au service militaire oblige, l'acteur n'a pu assurer la post-synchronisation du film. Et c'est Godard qui le fera. Drôle d'attelage qui fera croire à certains que le jeune premier a un déplorable accent suisse. Si cette unique fusion forcée du cinéaste et de l'acteur est le fruit de la nécessité, elle dit aussi ce moment où ces deux-là font intimement la paire. Deux cinéastes qui ont fait tourner Belmondo bien plus tard, Patrice Lecomte, avec Une chance sur deux, et Cédric Clapiche, dans Peut-être, portent un regard convergent sur le Belmondo des années Godard.
Le souvenir de Belmondo dans À bout de souffle, c'est un souvenir qui est lié au film lui-même, c'est-à-dire à un film qui, comme l'acteur, était doué d'une espèce de désinvolture inouïe, même de fantaisie, pourrait-on dire. Et quand Godard fait À bout de souffle, il fait À bout de souffle, le ton d'À bout de souffle est lié à Godard, certes, mais évidemment à Belmondo lui-même. Mmh. A donc cette fameuse désinvolture étrange, c'est cette clope vissée au bec... Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, allez vous faire foutre. S'il croit qu'il va me doubler, celui-là, avec sa frégate à la con. Enfin, toutes ces choses qui sont légère, drôle, pathétique aussi, parce que la fin est affreuse, quoi. Mais, et puis cette jolie Jean Seberg avec ses cheveux courts qui vend le Herald Tribune sur les Champs-Élysées. Enfin, tout ça, c'est un ensemble. Donc, Belmondo n'était pas comme une pièce rapportée sur un film qui aurait été ceci ou cela. C'est un peu comme si, et c'était sûrement le cas, comme si tout ce petit monde faisait le même film, ce film-là.
Toute sa vie, il a voulu prendre des risques. Et donc, effectivement, ce qu'on connaît, c'est sur son côté cascadeur et le côté risque physique avec les hélicoptères, les bateaux, les voitures à 100 à l'heure, etc.
Cédric Clapiche, réalisateur.
Les bagarres aussi, parce qu'il y a aussi le fait qu'il est très physique. C'est un des premiers qui vraiment se bat en vrai dans les nombreuses bagarres qu'il a filmées. Et c'est vrai que moi, c'était génial d'ailleurs, comment il me racontait les débuts. Quand il a accepté de travailler pour Godard, où il me disait, mon impresario, à l'époque un agent s'appelait un impresario, ne voulait pas qu'il tourne dans Un bout de souffle. Et donc, et je me souviens qu'il devait faire un film avec Henri Decoing, et donc il fallait qu'il choisisse entre les deux, et il avait choisi À bout de souffle, et donc son impresario le traitait de fou en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc, ce scénario n'a aucun sens. Et il disait justement, lui il avait déjà fait un court-métrage, je pense, avec Jean-Luc Godard, et il disait, je le trouve sympa, je sais pas très bien ce qu'il veut faire, mais j'ai envie de le faire. Et donc, effectivement, dans cette partie de sa carrière, les risques, ils sont là. C'est-à-dire qu'Henri Decoing, c'est vraiment quelqu'un de très connu, très établi. Et il préfère faire quelque chose de plus dangereux, je dirais. Et d'ailleurs, il racontait que le matin, quand il partait sur le tournage d'À bout de souffle, il pensait que c'était absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il me dit, c'est impossible de deviner le destin du film.
Bardot et Belmondo, ils auront eu Godard en commun. Ils auront incarné à l'écran et la modernité conquérante et la liberté du jeu. Et pourtant, ils ne tournèrent jamais ensemble. Ni Bardot et Belmondo, ni Bébé et Bébel. Aucun réalisateur ne voulut s'y frotter, comme si cette rencontre de deux phénomènes était trop explosive. Sauf un, mais qui n'alla même pas jusqu'au bout de son casting. En 1960, Henri-Georges Clouzot, pour son futur film intitulé « La vérité », auditionne ensemble les deux acteurs. Mais c'est finalement Samy Fray qui donnera la réplique à Bardot.
T'es une patate, mais t'es chouette quand même.
Tu peux monter ?
Oh non. D'abord, il y a des i, puis de toute façon.
Quoi ? Ça te déplaît ?
Oh non. Mais avec toi, c'est pas pareil. Toi, tu fais sérieux.
C'est sérieux, Mino. Je t'aime. J'ai tous les défauts de la terre, mais je t'aime pour devant. Tu regrettes ?
Oh non. J'aime bien tout. J'aime bien qu'on m'aime aussi.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio Canada.
La Bébelle Époque. Jean-Paul Belmondo, D'À bout de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
Parce que sous le titre Le Redoutable, il a consacré un film entier au Jean-Luc Godard des débuts, en demandant à Louis Garrel de l'incarner, le réalisateur Michel Hazanavicius est bien placé pour parler de À bout de souffle, de son acteur principal, de ses transformations successives et de sa place, tout simplement, dans son imaginaire cinéphile.
La nouvelle vague, je ne sais pas ce que c'est, mais le propre de Godard, c'est... Non, mais il filme précisément c'est ce vrai. Qu'il filme.
Oui.
C'est-à-dire qu'il filme... quand il filme un acteur, il filme l'acteur, il ne filme pas le personnage. Et donc, il met le langage du cinéma totalement ailleurs, Godard. Et quand il filme Belmondo, il filme Belmondo. Il ne filme c'est pas Michel Poincaré ou je ne sais qui. Non, mais voilà. C'est un peu moins vrai, je dirais, dans les autres films que fait Belmondo... Après, évidemment, À bout de souffle, qui sont des films plus classiques, bon, il y a une espèce d'insouciance, en fait. Le vrai mot, ce serait ça, il y a une insouciance. Il vient, et rarement un premier acteur assume à ce point qui il est, quoi. Alors, ça passe pas par le même endroit, mais je trouve que Bardot amène aussi, de son côté, une fraîcheur. Elle repeint l'époque, Bardot, quand elle arrive. Il y a un truc fou que personne n'avait jamais vu. Alors il se trouve qu'elle est très belle, qu'elle est très plastique et que personne jamais n'aurait osé lui dire qu'elle était laide. Lui, on lui dit qu'il est laide, donc lui, il a un côté bras d'honneur, quoi. Et dans tout ce qu'il fait, il y a toujours un bras d'honneur. Donc ça lui donne un côté bravache... canaille, quoi. À bout de souffle, c'est aussi un film qui rend le cinéma un peu accessible. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça a l'air simple, ça a l'air joyeux, ça a l'air... comment dire, proche, quoi. Il y a un truc qui est... Et puis, à bout de souffle, c'est, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment la naissance, il y a tout Belmondo déjà là-dedans. Il y a une aisance, une facilité, il y a une élégance dans le film en règle générale et dans l'interprétation de Belmondo qui n'est pas toujours réaliste. Le dernier plan, quand il court, il court un peu n'importe comment, beaucoup trop longtemps. Enfin, personne n'est jamais mort comme ça, dans la vraie vie. Mais c'est hyper beau, c'est hyper élégant. Je sais pas, il traverse ce film comme ça. Enfin, il le traverse, il en est au cœur. Mais c'est un film qui est assez complet. C'est-à-dire à la fois très, très novateur, troublant, marrant. Encore une fois, avec une musique, le jazz de Marcel Solal, qui est magnifique. Ouais. La lumière de Raoul Coutard, c'est un très beau noir et blanc. C'est Paris, voilà. Donc, ouais.
L'universitaire cinéphile Ginette Vincendeau résume parfaitement ce Belmondo première manière. Cet étincelant surfeur d'une nouvelle vague dont il est à la fois, côté comédien, le représentant le plus célèbre et paradoxalement le moins impliqué. Mais comme d'habitude, tout est d'abord affaire d'image et c'est celle d'icône de la nouvelle vague qui l'emporte largement.
Une des raisons du succès d'À bout de souffle, c'est Belmondo. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est Godard, bien sûr, c'est un film génial. Mais s'il a eu tant de succès, pour moi, c'est le personnage de Belmondo, parce qu'il apporte quelque chose d'à la fois très viril, très macho, mais en même temps extrêmement séduisant. Ça passe par le visage et ça passe par le corps. Pour moi, Belmondo, c'est un peu le visage de la nouvelle vague, parce que le personnage qui joue dans À bout de souffle est devenu une sorte d'emblème. En même temps, la caméra, comme on dit, l'adore. Et on voit très bien qu'il y a un côté très physique, mais en même temps très décontracté. La manière dont il se promène, il saute dans les voitures, dans les lits des femmes. Il y a une souplesse, il y a un côté très athlétique, mais en même temps extrêmement nonchalant, extrêmement décontracté, qui fait passer le personnage. Il est macho, il est désagréable, c'est un menteur. C'est
un tueur aussi, hein, il faut le dire.
Un tueur, un séducteur à la petite semaine. Et en même temps, il est complètement irrestible. Et y compris pour des féministes, comme moi.
J'allais vous poser la question.
Effectivement. Donc, c'est cette manière très élégante qu'il a de se déplacer. Et également, cette nonchalance, le côté très cool, comme on dirait maintenant, qui, en quelque sorte, fait passer son comportement, qui est, après tout, extrêmement discutable, on va dire. Et puis, en même temps, Godard met aussi en valeur son visage. Et là, ce qui est intéressant, il faut dire, c'est que finalement, Belmondo n'est pas du tout l'acteur type de la nouvelle vague, l'acteur masculin. On parle souvent d'une nouvelle forme de masculinité très douce, comme Jean-Louis Trintignant, par exemple, qui arrive dans le cinéma français à cette époque-là, ou bien le côté très dandy de Jean-Claude Brialy. Et Belmondo ne s'inscrit pas du tout dans cette tranche d'acteurs. En même temps, il n'est pas beau comme son grand rival Alain Delon. Et il me semble, moi, que Godard, on le met très bien en valeur. Et il est tout le temps en train de fumer. Alors, évidemment, quand on parle du charme de la cigarette de nos jours, c'est un peu problématique. Mais il faut le voir, pour moi, sur un plan historique. Donc, il y a une célèbre scène où il s'arrête devant l'affiche du film « Plus dur sera la chute » avec Bogart qui fume. Et il y a un petit peu de fumée très, très poétique qui s'échappe. Et je pense qu'il doit beaucoup à Godard, qui a su le mettre en valeur de cette manière.
C'est vraiment dégueulasse.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est dégueulasse ?
Thank you.
Cinq ans après À bout de souffle, et 25 films plus tard, avec Sauté, La Tuada, De Sica, Melville, De Broca et Verneuil, entre autres, Belmondo retrouve Godard pour un troisième et dernier film, c'est Pierrot le fou et le tandem amoureux Anna Karina, Jean-Paul Belmondo.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance, moi j'ai une toute petite ligne de chance, si peu de chance dans la mer, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
Un oiseau chante dans mes mains, ta ligne
de hanche,
ma ligne
de chance.
C'est l'oiseau vol de nos destins.
Ma ligne de chance, par Anna Karina.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada.
La Bébelle Époque, par Laurent Delmas.
On l'oublie un peu trop souvent, mais un an avant À bout de souffle, il y eut pour Belmondo un autre film de l'un des papes de la Nouvelle Vague, Claude Chabrol. Dans À double tour, l'acteur incarne à la perfection un rôle de jeune artiste peintre odieux et non conformiste. Un anarcho-machiste va même jusqu'à écrire un critique de l'époque. Chabrol fait de Belmondo son cheval de Troie contre une bourgeoisie de province terriblement hypocrite. Et Belmondo de jouer l'outrance, même au petit déjeuner.
Bah, qu'est-ce qui se passe? On entendrait une mouche voler.
On l'entendrait si vous ne faisiez pas tant de bruit en mangeant.
J'ai du bruit, moi. Alors là, en effet, je fais du bruit. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne lorsque je bois.
Laszlo, tu es répugnant.
Je voulais vous montrer ce que c'est que de faire du bruit en mangeant.
Le pauvre enfant, je te plais.
Oh, si on peut plus rien dire, alors je me tais.
Chabrol, Godard, manque encore le troisième mousquetaire, et non des moindres. Ce n'est qu'en 1969 que sort La Sirène du Mississippi avec Belmondo et Deneuve dans les rôles principaux. La Nouvelle Vague est retombée et l'auteur des 400 coups offre à l'acteur un rôle totalement à part, loin du séducteur sûr de lui des premiers films. Rien de plus normal puisque Truffaut, l'année de la sortie du film, et au micro de Jacques Chancel, est persuadé que Belmondo, c'est l'acteur total.
Évidemment, si vous voulez, il y a une petite insolence de la part du metteur en scène de faire jouer par des gens aussi exceptionnels, c'est ce que vous voulez dire, des rôles aussi normaux, mais je ne suis aussi normaux, aussi enfoncé dans la banalité peut-être.
Voilà, oui.
Mais oui, mais je crois que ça sert bien l'histoire, puisque lui, Belmondo, à mon avis, c'est un jeune homme qui peut tout jouer. Je veux dire qu'il peut jouer un homme beau, mais il peut jouer un homme banal, il peut jouer un homme joyeux, il peut jouer un homme mélancolique, il peut tout jouer, c'est le plus grand acteur d'Europe. Et il a là en main une photo d'une petite brune, qui est pas mal, mais sans plus. Et puis, à la place de cette petite brune, pas mal, sans plus, il a cette blonde magnifique, c'est Catherine Deneuve. Il est aux anges, tout va bien. Il me semble que c'est un bon départ d'une fiction. Il me semble que le film serait déséquilibré si j'avais des acteurs de célébrité inégale. C'est-à-dire si j'avais Belmondo et une fille qu'on n'a jamais vue, ou au contraire, un acteur secondaire, et puis Catherine Deneuve. Il me semble que ces histoires-là, grandes histoires romanesques, disons, un peu dans la tradition du cinéma américain, même si c'est traité dans un autre esprit, ça marche bien avec un couple de vedettes. Moi, je sais que le cinéma américain n'est jamais aussi grand que quand vraiment on trouvait Gary Grant et qu'en face, on mettait une grande actrice américaine, vous voyez. Et le cinéma américain de maintenant est moins fort parce qu'ils n'ont plus ces mythes, justement. Je crois d'avoir donné à Jean-Paul Belmondo un rôle faible, un rôle trop sensible, enfin qui ne correspondrait pas à son physique costaud. Ce qui m'étonne beaucoup parce que moi je l'ai trouvé très sensible et intelligent, Belmondo, dans les films de Godard, par exemple À bout de souffle et Pierrot le fou. Alors je me demande, ou bien ce public n'a pas vu ces deux films-là, ou bien, je ne sais pas, je crois qu'ils ont une idée de Belmondo d'après ses films récents, ou d'après les films de gangsters qu'il a pu jouer. La critique, je ne dis pas qu'on l'aura plus tard, mais le jugement sur un film se porte en plusieurs temps. Vous voyez, par exemple, mon deuxième film, Tiré sur le pianiste, avait beaucoup déçu après les 400 coups. C'était un série noire adapté avec Charles Aznavour. Et puis, peu à peu, il a au contraire eu une réputation assez prestigieuse. Il a eu du succès en Amérique et puis de nouveau en France. Si bien que je crois que je préfère ce qui arrive avec La Sirène, c'est-à-dire une mauvaise critique et beaucoup de monde dans la salle.
Jusqu'à la fin des années 60, Belmondo enchaîne les rôles et les films sans s'arrêter, ou presque. Pas moins de 6 films, par exemple, en 1961, comme il le racontait en 1996 à André Asseau. Dont celui de Jean-Pierre Melville, Léon Morin prêtre, preuve si besoin était que Belmondo peut tout incarner. On est alors bien loin du voyou criminel d'À bout de souffle, mais la séduction est toujours au programme, d'une façon ou d'une autre.
En 61, vous avez tourné 6 films.
6 films, oui, oui. Je l'ai vu comme vous en voyant.
Oui, 6 films.
Ah, mais oui, mais vous savez, j'ai un souvenir des fois que je finissais le samedi et le lundi, j'attaquais un autre film, quoi. À l'époque, c'était. Et puis, pas des petits films, quoi. Je veux dire, c'était pas des.
Et alors, quelle était la mécanique intellectuelle pour passer de l'un à l'autre aussi rapidement?
Mais je crois que vous savez, c'était excitant, finalement. Bon, bah, si, je sais plus l'ordre, hein. Quand j'ai fait Léon Morin prêtre, je crois que j'avais fait la Rocca avant, un policier, ou le contraire. Donc ça, c'était très amusant. D'un coup, je changeais complètement. Je ne rentrais pas dans le même personnage, si vous voulez. Et puis, je rentrais aussi des fois, c'est la chance qu'on avait à cette époque, on rentrait pas non plus dans le même cinéma. D'un coup, je pouvais faire un film avec Verneuil, je faisais un film avec Godard, je faisais un film avec Melville, avec De Sica. Vous voyez, je veux dire, c'était des gens... Je rentrais dans un autre univers à chaque fois. Ça, c'était formidable.
Mais si je prends une année qui fait 12 mois, habituellement...
Oui, normalement.
Et que je la divise par 6, ça fait 2 mois, 8 semaines.
Oui.
Alors donc, ces films importants que vous tourniez se tournaient en 8 semaines et vous sautiez de l'un à l'autre.
De l'un à l'autre, voilà, exactement. Et c'était réglé, il ne fallait pas dépasser une journée. Hein.
J'imagine.
Ah mais oui, par exemple, quand j'ai fait la Viatcha, je crois que j'ai fait, alors là, j'ai battu tous les records, j'ai dû le faire en 1 mois et demi, seulement la Viatcha. Et avec Bologna,
film
mais alors,
Bologna.
Vous savez, on tournait 14, 15 heures par jour. Hein. Parce qu'il fallait tourner, il fallait que ça soit fini. Parce que derrière, je rattaquais, je crois, un film de Godard, Une femme est une femme.
Donc les grands déconnages, c'était fini, ça.
On les faisait quand même.
Ouais.
France Inter.
RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Radio-Canada.
La Belle Époque, Jean-Paul Belmondo, en 9 épisodes, par Laurent Delmas.
Mes frères, est-ce le froid qui vous engourdit? J'espère que le beau soleil va vous animer un peu. Il y en a qui dévident leur chapelet pendant la Sainte Messe. C'est pourtant pas le moment. Il y en a qui vont faire leur petite dévotion auprès d'une statue, alors que le très saint sacrement est là, parmi vous, qui vous attend présent et vivant. Et puis tout le monde part avant le dernier évangile. Vous êtes donc si pressé de quitter votre Dieu, chrétien du dimanche? Mes frères, ne soyons pas comme ses disciples, qui se pressant autour de notre Seigneur, manquait l'étouffer et empêcher les gens de le voir, et même de l'approcher. Si vous n'êtes que des chrétiens de nom, vous éloignez les hésitants, vous leur ôtez l'envie de venir, alors que chacun de vous doit être apôtre dans son milieu. Je voulais vous dire aussi, chantons notre messe paroissiale avec un peu plus de virilité, s'entraîner sur les finales. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Pour Belmondo, l'aventure cinématographique avec Jean-Pierre Melville, figure tutélaire des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait commencé avec ce film, Léon Morin prêtre. Pour se poursuivre, en 1963, avec Le Doulos, un polar très noir, et prendre fin avec L'Aîné des Fers Chauds, la même année. 3 films, aussi importants que différents. 3 rôles essentiels pour Belmondo. Un truand, un curé, un secrétaire. Et une rencontre forcément déterminante avec un cinéaste hors pair.
Melville, il était très curieux parce que c'était un homme à la ville adorable, mais vraiment, hein, très cultivé. Bon, le cinéma, je n'en parle pas, quand vous parlez de cinéma, c'était passionnant. Et quand il arrivait sur un plateau, c'était un homme qui mettait la terreur. Mais bon, il ne me la mettait pas à moi, la terreur, mais il la mettait autour, aux techniciens, à d'autres acteurs, aux chefs opérateurs. Et ça, ça mettait une tension sur un tournage incroyable.
C'était volontaire de créer la tension ou c'était le personnage?
Non, je crois que c'était le
personnage.
Sincèrement, non, il ne le faisait pas. Il était comme ça. Et, une anecdote, ce qui n'a rien à voir avec Léon Morin prêtre. Mais par exemple, quand j'ai fait L'Aîné des Fers Chauds, j'avais un combat de boxe. Et je boxais avec un ami qui était à l'époque champion de France professionnel, Maurice Auzel, dont on répétait pas, on faisait comme à l'entraînement. Et à un moment donné, bon, bam, il me glisse un crochet du gauche. Et j'entends. Alors j'y étais, je m'accroche à Maurice Auzel et je lui dis, attends, j'y suis. Et j'entendais en bas Maurice, Melville qui faisait, À la tête, Maurice, à la tête. Alors, il était incroyable parce qu'il me dit, oui, mais moi, je me suis beaucoup battu dans la rue. Enfin, il avait des trucs comme ça. Par exemple, pour la boxe, il avait dit aussi, pareil, à Maurice Ozel, qu'il plaçait mal ses pieds. Alors, l'autre, il préparait le championnat d'Europe et il lui expliquait qu'il fallait mettre les pieds comme ça. Je mettais les pieds comme ça, en boxe, je tombais tout de suite. Et alors, bon, il avait une mauvaise foi comme ça, mais c'était un homme passionnant. Moi, il m'a jamais... par exemple, il avait pris en grippe Vanel sur les nez des fers chauds. Alors bon, je me suis disputé avec lui, moi, à cause de Vanel. J'aimais beaucoup Vanel. Et il y avait des rapports comme ça, passionnels. Il était un peu jaloux de l'amitié que j'avais avec Vanel.
Un jour, n'en pouvant plus, Belmondo explose et dit à Melville ses quatre vérités. C'est le clash sur le plateau, miraculeusement enregistré, et que Bertrand Tavernier retrouva. Belmondo claque la porte et le film se finira sans lui.
Mais oui, mais écoute, il a raison, merde, parce qu'on nous fait revenir et rien n'est prêt. Faites-nous descendre quand c'est prêt, on n'est pas des guignols. Moi aussi, j'en ai marre, monsieur Melville. Marre et jusque-là, j'en ai ras-le-bol. Parce que moi, je suis pas un guignol.
Et moi,
ça fait une semaine que j'attends.
Et moi, je suis un guignol.
Hier, j'ai attendu de 8 heures jusqu'à 11
heures. Et ça m'amuse. Et moi, ça m'amuse.
J'étais dans ta baignoire.
Quand ça?
Je suis un couillon, moi.
Quand?
Hier, j'attends en bas, on me dit, monsieur Melville, j'ai ses boutons de manchet. Et bah, ça, j'en ai marre.
Qu'est-ce que c'est que cette
histoire? Parce que moi, je ne veux jamais les gens. J'en ai marre.
Maître Morel m'a dit que vous cherchiez un secrétaire.
Que qui cherchait un secrétaire?
Maître Morel ne m'a pas dit non. Il m'a dit de me présenter à cette adresse à 9h.
Comment vous appelez-vous?
Michel Maudet.
Qu'est-ce qui est arrivé à votre œil, là?
Vous allez sans doute pas me croire, mais je suis tombé dans mon escalier.
Il y a longtemps que vous crevez de faim? Enfin, je veux dire que vous cherchez une situation?
Non, j'ai perdu la mienne il y a 15 jours. J'étais secrétaire d'une chanteuse très connue.
Ah, devait-on changer souvent? Vous tapez la machine?
Oui.
Sténo?
Oui, un petit peu. Enfin, suffisamment, je pense.
Vous avez fait votre service militaire?
Oui, oui.
Dans les paras, bien sûr.
Pourquoi bien sûr?
Parce que je vous imagine mal dans l'intendance avec un nez pareil, bien que une chute dans l'escalier soit toujours possible.
Non, ça, c'est un souvenir d'avant mon service. J'ai fait de la boxe en amateur.
Asseyez-vous.
Bien des années plus tard, et pour la télévision cette fois, Belmondo accepta de prendre le rôle que jouait Charles Vanel sur grand écran. Devant la caméra de Bernard Stora, c'est désormais lui, l'aîné des fers chauds, face à un Sami Nasseri qui incarne le rôle que jouait Belmondo. Bernard Stora se souvient de cette nouvelle adaptation du roman de Georges Simenon, en forme de revanche.
L'idée est venue de Belmondo, l'idée était pour lui de reprendre le rôle de Vanel.
Oui.
Voilà. Et je n'avais pas lu, moi, L'aîné des fers chauds. Donc je l'ai lu, j'ai été sidéré.
Par tout ce qu'il n'y a pas dans le film de Melville.
Évidemment, oui. On dit que Melville n'aimait pas Simenon, mais ça me paraît très vraisemblable, sachant ce qu'il aimait comme type de polar. Et donc, j'ai lu le bouquin qui est formidable. Donc c'était vraiment la possibilité de faire, en effet, une nouvelle adaptation. Je crois que c'était une merveilleuse idée. Je comprends très bien qu'il ait eu envie de jouer le rôle que tenait magnifiquement Vanel plusieurs années auparavant. Et il avait l'âge pour le faire, la maturité, l'assurance et la fragilité pour le faire. Moi, je le trouve bouleversant dans le film, formidable.
Ce qui m'a frappé, c'est que je trouve que, au moins dans les premières scènes, il parle comme Vanel. Avec cette voix qu'on ne comprend pas forcément complètement, enfin une articulation qui est très très particulière. Et je trouve qu'on retrouve ça chez Belmondo.
C'est vrai qu'il a joué dans une retenue, dans un jeu modeste et très efficace, terriblement efficace.
Quel est votre nom?
Mike.
Mike.
Monsieur Ferchaud, c'est Lucie.
Les nouvelles de Nosro?
Oui, j'ai fini par coincer sa secrétaire. Je vous dis pas ce qu'il a fallu que je fasse. Alors, à ce qu'il paraît, il déjeunerait au restaurant Pierre Albert. C'est pas sûr, mais en principe, c'est bon.
Merci, Lucie. À plus tard. Prenez à droite, on va rattraper la rue du Bac. Depuis combien de temps vous crevez la faim?
Je crève pas la faim.
Ah bon? Vous avez combien sur vous, là?
C'est-à-dire, j'ai pas eu le temps de passer au distributeur.
Je vous demande combien. Si vous devez travailler pour moi, autant vous habituer tout de suite. Des réponses nettes et précises. Pas de « je suis désolé » et de « c'est pas ma faute ».
franc 20, mais... Un franc 20.
Et vous, Franck?
Bah, vu de nez, je dirais 2000. J'aime bien avoir du liquide sur moi.
Franck, qui n'a pas fait la moindre étude, a 2000 francs sur lui. Et vous qui avez votre bac plus 2 ans d'études, d'études de quoi, en fait?
De droit.
2 ans d'études de droit, vous avez en tout et pour tout un franc 20. Comment expliquez-vous ça? N'aimiez pas les études? Ou le droit? Ou les deux?
Mais au fond, pourquoi sont-elles si décisives, ces premières années durant lesquelles Belmondo enchaîne les tournages avec les plus grands cinéastes du moment, incarnant la nouvelle vague, mais bien plus encore? L'œil acéré et visionnaire du sociologue Edgar Morin en faisait dès cette époque l'analyse, annonçant par avance un aigle à deux têtes qui finirait par choisir son camp avec la séduction comme un alpha et un oméga.
Et James Dean a incarné des films où c'était un adolescent, bon, en révolte contre sa famille, contre le monde, si vous voulez. Et de plus, James Dean a authentifié les rôles de ses films dans sa propre mort. Belmondo, ce n'est qu'un film seulement, à bout de souffle, où il incarne quelque chose qui peut être, disons, le thème d'un héros de l'adolescence. Mais dans Moderato Cantabile, c'est un personnage tout à fait différent, un homme plus âgé. Et dans La Française et l'amour, dans un sketch, il joue un rôle de séducteur, un rôle de comédie un peu. Alors, je ne sais pas quels vont être les autres rôles de Belmondo. Si vous voulez, Belmondo, il y a deux terrains sur lesquels se développe la personnalité de Belmondo. Le terrain Belmondo, un peu nihiliste, un peu refusant le monde, un peu indifférent au monde, et par là même un peu symbole de l'état d'esprit d'une partie de la jeunesse aujourd'hui. Et le deuxième terrain, c'est Belmondo, l'homme qui séduit, l'homme auquel les femmes ne résistent pas, etc. Alors vous comprenez, actuellement, Belmondo joue son mythe de vedette ou sa carrière de vedette sur ces deux terrains. Et je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui si un de ces aspects l'emportera sur l'autre. Moi, je crois que c'est le deuxième, mais enfin, j'en sais rien.
Comme en écho immédiat, Belmondo lui-même, au micro de la RTS, réfutait par avance toute dérive mythologique. Retour au belmondisme, cher à Tarantino. Que faire si le principal intéressé le récuse lui-même, et ce, dès l'origine? L'écouter, évidemment, tout en étant persuadé qu'à un moment donné, l'icône ne s'appartient plus tout à fait et qu'il lui faudra bien accepter son statut de monument national malgré lui. Que n'aurait-il dit si, à l'époque, on lui avait prédit la cour d'honneur des Invalides, le discours présidentiel et l'hommage de la nation sur fond d'Ennio Morricone?
On a parlé du belmondisme en faisant un mythe. Vous croyez au mythe Belmondo?
Non, justement, je ne crois pas du tout au belmondisme. Ça, c'est des phrases qu'ont fait les journalistes. Je crois que, justement, c'était le personnage que je jouais dans Un bout de souffle qui a marqué ça, effectivement, beaucoup de jeunes. Et comme j'étais à fond dans ce rôle, ça a marqué les gens. Et justement, j'ai eu la chance, et en même temps, parce que j'ai refusé d'autres films, de ne pas rester dans du Belmondo, c'est-à-dire de jouer toujours à bout de souffle et de pouvoir faire derrière Moderato Cantabile, pouvoir jouer Léon Morin-Prêtre, des rôles totalement différents.
D'un bout de souffle à Léon Morin-Prêtre, il y a un chemin parcouru. Vous l'avez suivi consciemment ou c'est le hasard des productions?
Non, enfin, le hasard joue toujours un rôle, évidemment, dans une carrière d'acteur, mais enfin, je l'ai suivi consciemment parce que j'ai pas voulu... justement, j'ai refusé d'être un mythe, c'est-à-dire un personnage, par exemple, comme Un bout de souffle, uniquement. Et j'aurais pu, je crois, faire ça un bout de temps et certainement gagner de l'argent avec ça. Mais j'avais envie d'être acteur et comédien. Donc, j'ai cherché des rôles totalement à l'opposé de celui-là. Et même maintenant, mon but est de faire encore autre chose. Parce que si, par exemple, Léon Morin-Prêtre marche très bien, je ne veux pas non plus partir dans les curés... Et les gentils, il ne faut pas se laisser enfermer ni dans un sens ni dans l'autre. Et je crois que pour un acteur, le principal, c'est d'essayer de tout jouer.
La meilleure conclusion provisoire serait peut-être le regard que porte une jeune cinéaste talentueuse, Rebecca Zlotowski, née sous Bebel, et qui découvrira Belmondo bien des années après, au cours de ses études de cinéma. Celui d'À bout de souffle, avec cette modernité intemporelle qui n'en finit pas d'épater nos pupilles cinéphiles.
Les moments d'épiphanie au cinéma sont des moments qui sont imprévisibles. C'est la raison pour laquelle on adore et ça nous terrorise de faire ce métier. C'est que c'est imprévisible, Mais disons que, voilà, il y a des épiphanies avec des moments de modernité qui se fabriquent, qui nous parviennent avec un écho une décennie après, et qui parfois sont vécues en temps réel. Moi, je n'ai pas vécu en temps réel la sortie en 1960 d'À bout de souffle, donc je serais en mal de raconter quelle a été la déflagration à ce moment-là. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a un effet magique, je suis désolée d'utiliser ce mot, mais il y a un effet d'alignement, allons dire, de planète, pour prendre un truc plus astrologique, j'essaie de trouver quelque chose de moins faussement poétique que magique, mais il y a un alignement de planètes qui entoure le film et en fait un manifeste de modernité. Et évidemment, dans ce manifeste de modernité, il y a la mise en scène de Godard, le scénario de Truffaut, drôle, un an après les 400 coups, le montage, bien entendu, cette espèce de cut-up totalement inattendu, novateur. Et au cœur de ça, au même niveau, j'allais dire, un Gene Seberg et Belmondo. Donc je ne dirais pas que c'est Belmondo qui émerge comme une modernité. D'ailleurs, la suite de sa carrière prouvera que ce n'est pas quelqu'un qui incarne la modernité, Belmondo. Ce n'est pas un acteur qui la porte avec lui. Je pense justement à Sammy Frey. Sammy Frey qui, de William Klein à la fin de sa carrière, qui n'est pas fini d'ailleurs, pour moi, il incarne autre chose. Belmondo, lui, il n'a eu aucun mal à se glisser dans les habits d'un cinéma ultra populaire. Donc, disons que ce n'est pas lui qui portait la modernité, mais il s'est glissé dans ce moment de modernité qui l'a fait advenir. Alors moi, j'ai des explications. On peut comprendre pourquoi ça fonctionne autant, pourquoi c'est aussi séduisant. Quand on se disait que c'est aux acteurs aussi d'inventer le genre, que c'est aux acteurs aussi d'avoir cette responsabilité-là ou cette co-responsabilité, ben je pense à Belmondo d'une certaine manière. J'ai l'impression qu'il est entre avec ce visage dont les critiques américains disaient qu'il était hypnotiquement laid, ce qui est quand même, on peut même pas imaginer, alors que il a un corps de cascadeur, donc un truc un peu à la Warren Beatty, Brad Pitt au niveau du corps, parce que vraiment super bien gaulé, enfin que les choses soient claires, donc un peu comme Alain Delon, et en même temps un visage un peu, en vrai, si on n'avait pas son charme, si le charme n'était pas perçu aujourd'hui, il aurait un visage quand même très ridé, très simiesque, avec des expressions un peu forcées, un peu outrées, qui viennent vraiment du boulevard. Donc je pense qu'il a mêlé un corps athlétique du viril pur avec une espèce de fantaisie extrêmement féminine qui n'a pas peur d'outrer, d'aller dans le vaudeville pour une espèce d'expressivité d'une absence d'intériorité visible, quoi. Et ça fait de lui un personnage un peu funambule, quoi. Et je crois aussi que pour Godard, s'il était aussi intéressant, c'est parce qu'il devait être extrêmement docile. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure, dans les masculinités qui étaient proposées à l'époque, il n'y avait que des types, j'allais dire, à l'ancienne. Et où vraiment des intellectuels avec qui il fallait coécrire, je pense, les films, type Piccoli, type peut-être même Reggiani et Montand. Et donc je pense que voilà, qu'il s'est imposé à un moment où il manquait un acteur qui portait pleinement son nom, c'est-à-dire qu'il est dans l'action. C'est un acteur d'action, Belmondo. Un acteur sur ressort, un acteur qui, quand il entre dans la scène, il prend tout l'espace, il fait des diagonales, il ouvre les bras, même dans le Stavisky de René. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait la roue, c'est un showman, quoi. Et ce côté théâtre de boulevard, associé au projet de modernité pure dans lequel il était, c'est un clash visuel génial. Et qui le rend hyper sympathique.
C'est Marion Philippe qui a préparé cette série et c'est Stéphane Ronxin qui la réalise avec Thomas Langlin aujourd'hui. Ce sont des professionnels et pas des guignolos. Prochain épisode, quand l'habit fait l'acteur.